Nous sommes le lundi 10 septembre et vous écoutez le 33e épisode Phase B de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous présente les jeux sur table et sur écran.
Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. LudicBazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. Salut les joueurs, salut les joueuses et salut Olivier.
Salut Jérémy.
Ça va bien?
Ouais, bah disons que la semaine dernière vous nous avez entendu, on était un peu mou. Parce que c'était le premier de la saison et là on...
Là c'est 5 minutes après, on est vachement...
Et on est... Alors vous attendez-vous à quelque chose d'un petit peu... Dans le même genre.
Voilà. Mais non, du punchy là, on est
punchy,
prêt.
Punchy.
C'est un nouvel épisode, on est prêt.
Et t'as de la bière encore ou pas?
Non, mais on peut en ouvrir l'autre.
Ouais, ben, ok. Bien. Alors, on vous laisse une seconde et on vous reprend tout de suite.
Voilà.
Et ce soir, Jérémy nous a ouvert une triple carmélite. Et on vous en dira des nouvelles. Alors, Jérémy, pour ce deuxième épisode de numéro 33, enfin, la deuxième face du 33, le jeu en profondeur, in depth, on va parler de quoi? On va parler d'abord de nos jeux de l'été, c'est ça?
Ouais, revenir un petit peu sur les jeux de l'été. J'ai eu quelques déceptions. Et puis après, on va venir sur les écrans. Donc l'idée c'est Lost Cities que tu nous présenteras sur iPhone et moi je présenterai Summoner Wars sur iPad.
Ok, bah donc on commence tout de suite avec les jeux de l'été.
Ouais, je peux commencer tout de suite parce que j'ai été déçu.
Non, parce que maintenant il y a un jingle. Donc,
ah pardon.
C'est pour le lancement.
Alors on va laisser le jingle passer là.
Ouais.
Tu me dis quand il est fini.
Voilà, c'est fait.
Ah, ça y est.
Donc maintenant, tu peux nous parler de... vas-y, tu commences et puis moi, je compléterai.
Ouais, alors je vais commencer par mes déceptions, en fait. Hein, tant qu'à faire. Parce que j'aime bien finir sur une note positive.
Oui.
Et surtout que c'est très positif ce soir. Donc je voulais Quarriors. Quarriors, Olivier, il vous le vend, il le survend sur Proxy Jeux. C'est incroyable. Depuis presque un an, il aurait presque nommé Spiel des Sierras, enfin la totale. Au final, j'ai craqué, je sais pas encore pourquoi. J'ai fait quelques parties et en fait, ça n'a... Moi vraiment, l'alchimie n'y a pas eu quoi. Ça a pas marché.
Je vous rappelle qu'il y avait une antinomie entre, enfin une pas une antinomie, mais il y avait une confrontation entre Thunderstone et Dominion, et que ensuite il a pas compris. Au lieu de se dire non, mais c'est pas pour moi. Il aime Quarriors, il aime Thunderstone. Je vais peut-être pas acheter Quarriors. Il l'a fait quand même fou que tu es.
Ouais, en fait chercher des jeux pour changer un peu de Dominion justement les midis.
Non, si vous aimez quelque chose de technique, plus sérieusement, si vous aimez quelque chose de technique. Tournez-vous vers Dominion. Si vous cherchez quelque chose où vous mettez le fun en avant, le game, enfin pas le gameplay, mais quelque chose de plus, beaucoup plus quoi ?
Immersif
avec un thème, thématique.
En tout cas,
ouais. Bah, Quarriors est plus fait pour vous, quoi.
Voilà, c'est ça. Moi, c'est-à-dire qu'on a reproché à Quarriors, c'est que finalement, donc bon, c'est en anglais. Passons. La règle, en fait, n'est pas expliquée de manière simple du tout à la base. Je dis bien à la base. En fait, il vaut mieux si vous trouvez une vidéo qui vous explique le jeu. Je pense que c'est mieux. Voilà, ouais, sur les cartes, je trouve que le texte est peu évident à lire, la typo choisie est pas facile. Donc quand on plonge dans le jeu pour la première fois, c'est un peu spécial. Après on a joué à 4, moi j'ai été à chaque fois dernier joueur, j'ai jamais réussi à faire grand-chose du fait que le jeu tel qu'il est fait, mes monstres, enfin les dés que je tirais qui permettaient de sortir des monstres, se faisaient tabasser par des monstres plus puissants des joueurs qui avaient un tour d'avance sur moi. Un peu rude. Mais bon, ça encore admettons des fois, c'est le troisième joueur qui a gagné, donc je me dis que c'est peut-être aussi un peu pas de chance sur le tirage des dés.
De toute façon, si tu sais pas tirer des dés, tu joues pas à Quarriors.
Et surtout, on a trouvé, donc ouais, c'est vrai qu'il y a du, là-dessus, pas de problème, il y a une thématique, il y a tout ça. Par contre, bah, du coup, ouais, effectivement, nous, on aime les jeux un peu plus, carrés, on va dire, qui laissent vraiment les chances. On avait vraiment l'impression que celui qui est le premier qui achète un des monstres les plus forts parmi la sélection, du tirage au sort, et ben, du coup, il va défoncer un peu plus vite les autres, pour peu qu'ils le sortent, mais.
C'est la vie.
J'aurais dû m'en douter parce que c'est effectivement le schéma des jeux américains avec une bonne thématique, mais voilà, mais qui colle pas pour moi parce que c'est
tout à fait. Donc toi aussi, cher auditeur, si tu cherches quelque chose de plus technique, tourne-toi vers Dominion. Et si tu aimes les dés, si tu aimes lancer les dés, et puis que t'as pas peur du hasard, surtout si tu sais lancer les dés, bah, Quarriors, tu peux l'essayer et c'est un jeu qui est fait pour toi. Bon, alors on va continuer autre jeu. Dont on vous a déjà parlé, et que moi-même j'ai essayé quand j'étais en vacances, c'est The City. The City, on vous a parlé tout à l'heure de San Juan. San Juan, ça a donné du Arrest for the Galaxy, et Tom Lehman a voulu faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup moins vaste. Et en fait, The City, c'est un jeu de cartes qui est sorti chez Amigo pour 4 à 5 joueurs, je ne sais pas. Ou 2 à 5 joueurs.
Tu peux jouer à 2, ouais.
2 à 5 joueurs.
Et en français, chez Gigamic.
Et chez Gigamic, dans une petite boîte métal sans le nom de l'auteur dessus.
Et derrière, mais il faut retourner la boîte.
Voilà. Et en fait, le concept, c'est qu'on va construire sa ville et on va payer avec sa main les cartes qu'on va poser. Et en fin de compte, on va gagner... les cartes permettent soit de piocher d'autres cartes, soit d'avoir des points de victoire. Les points de victoire sont cumulatifs. On va, au fur et à mesure des manches, des tours, pardon, gagner de plus en plus de points de victoire. C'est très plaisant. C'est pas très compliqué. Les enfants adhèrent rapidement et c'est pour premier pas. Alors, soit pour des gens qui sont pas joueurs forcément, soit des jeunes joueurs, ça permet en fait de rentrer dans la stratégie mais facilement. C'est-à-dire que c'est une ville, donc il va y avoir des zones résidentielles avec des fontaines, des voitures, donc toute l'infrastructure routière, et puis on va avoir aussi des caddies, les malls, les centres commerciaux, des choses comme ça. Et en fin de compte, il y a des stratégies qui sont faciles à mettre en place où on va dire, moi, je vais privilégier telle ou telle stratégie.
La voiture.
Et c'est plutôt assez simple, en fait.
La voiture paye mieux que le reste.
Oui, en disant, alors, tu vas compter toutes tes voitures plus les voitures d'un autre joueur, c'est juste cheaté, mais voilà.
Il y a deux cartes qui permettent de gagner des points de victoire avec les voitures. J'ai beaucoup joué aussi pendant l'été avec les enfants, à deux également. À ce sujet, d'ailleurs, on comptait les scores avec l'iPad, la petite application GameKit est top. En fait, au bout d'un moment, faire les parties, des fois, je visais des stratégies sur fontaine ou etc. Et ça marchait moins bien que mon adversaire qui partait sur voiture. Donc, au bout d'un moment, on a pris les cartes, on les a mises à plat, on a regardé, on a comparé, et les voitures, ça paye mieux que le reste.
Ouais, donc un jeu qui est pas sans défaut, qui est pas super équilibré. Ouais, mais c'est toujours lutte. Pareil. Ouais, c'est pas équilibré, mais d'un autre côté, tu sais pas les cartes que tu vas avoir. Donc, en fin de compte,
Non, c'est très bien comme jeu. Enfin, faut le prendre tel qu'il est, et c'est un jeu qui est 10 minutes. Hein, c'est pas 3 heures non plus.
Jeu familial, j'ai mis 10 minutes. Compter plutôt 20
avec
minutes.
Les enfants avec les enfants ou à plus
c'est écrit 10 ans et plus sur la boîte, mais vous pouvez commencer avec des jeunes enfants qui savent lire, donc plutôt 8 ans et ça se joue de 2 à 5 joueurs pour 15 euros en fait la boîte métal.
Ouais, je dirais 12-15 euros.
Donc Quarriors peut-être pas, mais The City, allez-y, n'hésitez pas.
Ça nous manquait. Autre déception pour moi. Allez, après, c'est la dernière. Santa Cruz, on vous avait parlé un petit peu des jeux pour l'été, dans nos dossiers des jeux de l'été, etc. Un jeu de Marcel André, Casasola, Merkel, qui a produit des super jeux. Olivier avait parlé de Meuterer. Moi, j'avais beaucoup aimé Aitika ou Taluva de sa part. Et donc là, Santa Cruz, c'était le nouveau jeu qui sortait chez Philosophia juste avant l'été, qui est indiqué pour en plus 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans.
Là, c'est l'inverse. C'est 8 ans, mais non. Ça marche à 8 ans ?
Oui, ça peut marcher à 8 ans, mais ça va pas être facile pour eux, quoi.
Ouais, c'est ça.
En fait, c'est un jeu... bon, alors, il y a une thématique plaquée où on va faire coloniser, ou en tout cas s'établir sur une île. La particularité du jeu, en fait, c'est que il va se jouer sur deux phases. Une première phase où on va découvrir l'île. Donc, sur l'île, il va y avoir des points... Il y a différents... Des tuiles qu'on va placer face cachée. Et qui sont accessibles ou bien par la mer, ou bien par la rivière, ou bien par des chemins, etc. Et sur ces tuiles, il y a des illustrations, des objectifs en gros à atteindre. Les objectifs qu'on nous a distribués en début de partie, les objectifs à atteindre. Ces objectifs permettent de gagner des points. Tous les joueurs ont une main de départ différente sur les moyens de transport qui vont permettre d'aller sur les lieux. D'accord, il y en a un qui va privilégier par exemple les chemins forestiers, il y en a un qui va privilégier plutôt les rivières, il y en a un qui est équilibré. Les joueurs choisissent lequel ils veulent en début de partie par rapport aux objectifs qu'ils ont en main. Et à son tour de jeu, tu dois jouer une carte. Ou bien tu poses un objectif, et dans ces cas-là, tout le monde score les objectifs. Il n'y a pas que toi, c'est-à-dire que tes adversaires aussi, donc il faut choisir le bon moment pour la jouer. Et puis sinon, tu vas jouer une carte qui va te permettre justement de développer par chemin. Donc là où tu as déjà mis une colonie, bah, tu vas suivre un chemin et tu vas aller mettre une autre colonie. En gros, tu récupères un jeton, tu vas pouvoir marquer des points de victoire supplémentaires. Voilà, donc la première phase dure comme ça, jusqu'à ce que les joueurs aient joué toutes leurs cartes. On fait un premier décompte. Enfin, il y a eu forcément un décompte avec toutes les cartes objectifs qui ont été jouées. Les joueurs remettent les cartes au centre, les joueurs vont rechoisir différemment. Le dernier joueur au score, en fait, va du coup choisir en premier quelle pile de cartes il va vouloir jouer pour la phase 2. On laisse les tuiles qui avaient été révélées à la phase 1, on va les laisser révéler pour la phase 2, ce qui fait que la phase 2 va être beaucoup plus tactique. La phase 1, moi ce que je reproche à ce jeu justement ça, c'est que la phase 1 est vachement aléatoire. C'est beaucoup trop aléatoire par rapport aux objectifs que tu as. Si t'as pas de bol, bah tu vas pas tomber. Vu que tu vas que sur des tuiles face cachée,
C'est une mise en place. Si t'as des contrats qui se font bien, mais que t'as, que tu tombes pas sur les, que tu retournes pas les,
ouais,
les tuiles qui t'intéressent, ça marche pas.
Ouais. Et en plus, donc, des fois, t'as pas de bol, parce que t'es obligé de jouer les objectifs, où toi, tu vas pas scorer, mais tous tes adversaires vont scorer. C'est une catastrophe. Heureusement, la phase 2, en fait, le jeu, il est bien à la phase 2. Mais du coup, c'est que la moitié de la partie. Parce que là, par contre, tu as toutes les billes en main. C'est-à-dire que tu connais tes objectifs, forcément. Tu as les cartes qui vont te permettre. Et surtout, tu sais déjà quasiment, là, sur le plateau, tu connais au moins la moitié des éléments du plateau. Et donc du coup, tu vas devoir optimiser quand est-ce que tu vas jouer tes objectifs. En plus, tu connais aussi l'essentiel des objectifs que les autres joueurs ont en main. La différence, c'est qu'à début de la phase 2, chaque joueur pioche un nouvel objectif et choisit d'en défausser un. Donc, à quelques objectifs près, tu sais exactement ce que chacun a en main et ce qu'il va jouer. Donc, ça rajoute une course là-dedans. La phase 2 est super, en fait. Le jeu, il est très très bien dans sa phase 2. Mais le problème, c'est que le score se fait aussi à la phase 1.
Il y a encore il y a en quelque sorte la partie mise en place, construction de la phase, enfin du plateau qui ne plaît pas trop.
Ouais, découverte. Bah, la phase 1,
découverte.
Totalement aléatoire. Ouais. Pour moi, ça ne me plaît pas des masses. Voilà ma grosse déception. Donc, Santa Cruz, il repart.
Si vous cherchez un Santa Cruz, pas trop cher. Bah faites-nous un mail à contact@proxyjeux ou jeremy@proxy-jeux.fr.
Ouais, c'est possible.
Il vous répondra.
Il aura déjà trouvé acquéreur d'ici là, mais.
Moi, je voudrais parler d'un jeu que j'aime bien. Alors voilà, tu vois, c'est toi. Tu nous fais une petite liste des jeux que t'as pas aimé, et puis moi, je vais parler des jeux que j'ai bien aimé. Donc, je suis un grand fan d'Agricola. Je pense que c'est un des meilleurs jeux du monde. C'est vraiment le.
Ouais.
Quoi, ouais.
Bah oui, c'est vrai. Ouais. Autant que Puerto Rico.
Autant que Puerto Rico, mais dans le genre pose d'ouvrier, il y a Caius et il n'y a pas bien mieux. C'est-à-dire, c'est quand même une référence, c'est vraiment un excellent jeu, malgré le thème, et j'aime encore mieux avec Les Fermiers de la Lande. Excellente extension qui renouvelle vraiment le jeu. Il est sorti un jeu à deux dont vous avez parlé, et que j'avais moi-même un petit peu critiqué, c'est...
Oui, tu étais négatif. Hein.
J'ai encore oublié Animal.
Terre d'élevage.
Big and Small. Terre d'élevage. Donc, dans Terre d'élevage, c'est un jeu exclusivement à deux, paru chez Philosophia, où on va construire sa ferme et où il y a un plateau qui va nous proposer des animaux supplémentaires, des matériaux supplémentaires. Comme dans Agricola, on va pouvoir. Prendre un de ces trois pions et récupérer du bois, récupérer de la pierre, récupérer des animaux et construire sa ferme avec quelques bâtiments. Il y en a 8, je crois, enfin pas énormément. Et en fait, l'idée c'est que on va gagner un point par animal et puis les bâtiments vont aussi donner un peu d'or, un peu de points de victoire à la fin. Quelques stratégies, par exemple, t'as un bâtiment qui va te donner des points par rapport aux matières premières que t'as gardées. Et puis des malus, c'est-à-dire que si t'as pas fait de chevaux, si t'as pas fait de bœuf, si t'as pas fait ceci, tu vas gagner moins 3 points. Et suivant la rareté de l'animal, on a beaucoup de moutons, un peu moins de sangliers. Les bœufs, c'est déjà pas terrible, mais alors les chevaux, il y en a vraiment pas. Non, c'est pareil en fait. C'est pareil les bœufs et les chevaux, sauf que tu as plus de points avec les chevaux qu'avec les bœufs. Tout ça pour dire que c'est simple, que c'est quoi ?
Non, non, très bien. Avec ton explication, c'est plus très...
Non, mais par rapport à Agricola, ça se joue en 8 tours. On peut rajouter des extensions à la ferme, on peut faire des clôtures. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus court, beaucoup plus... en fin de compte, c'est plus stratégique. Et je me posais la question, je me disais mais attends, est-ce que ça fait doublon avec Agricola, est-ce que c'est pas juste quelque chose pour diluer un peu le jeu et pour pouvoir vendre plus de boîtes, et en fin de compte c'est bien, je suis plutôt positif sur ça. Je trouve
que t'étais plus mitigé au début de l'été.
Ouais, parce que même un Agricola à deux, si tu veux faire une partie complète, c'est une heure et demie.
Non.
Là en l'occurrence c'est une heure.
Ouais, à deux, ouais, genre une heure avec l'installation,
une
c'est
heure.
Un peu le bordel. Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est du plaisir.
Bah, c'est toujours du plaisir, mais là, c'est 20 minutes de plaisir. 20 minutes, une demi-heure, en plus, ça se joue sur un coin de table, c'est, enfin, un espace plus réduit.
Ah ouais,
moi, j'ai des grandes tables, alors c'est pas, voilà. Et voilà, donc, Terre d'élevage, c'est un jeu de Uwe Rosenberg, le papa d'Agricola, qui est illustré par Clemens Franz, qui est publié chez Philosophia, distribué par Asmodée, pour deux joueurs, et, certains disent que c'est, et c'est pour à peu près une demi-heure. Une demi-heure, trois quarts d'heure, pas beaucoup plus, sinon faut jouer à autre chose.
Agricola.
Et puis pour 25€ ?
Ouais, à peu près.
25€.
Et puisqu'on parle d'Uwe Rosenberg, Agricola, tout ça, je l'ai acheté quand il est sorti en français, c'est Aura Elabora, et je n'ai pu y jouer que cet été. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu au format un petit peu long quand même, une partie c'est à deux. Pour l'instant, cet été, j'ai pu y jouer qu'en coupe parce que c'était, on est en vacances, c'est là où on arrive à débloquer du temps. C'est ouais, presque deux heures de jeu, quoi.
Je pense, c'est au moins deux heures de jeu et je pense que c'est une bonne configuration parce que justement, c'est un jeu qui est très long.
Et ouais, il déconseille d'y jouer à quatre, par exemple, pour les premières parties.
Ah ouais, donc, non, c'est horrible.
Mais bon, après, on a fait plusieurs, on a joué plusieurs soirs d'affilée, donc après, c'était plutôt une heure et demie. C'est un jeu qui est exigeant. La lecture de la règle, en fait, la règle est simple, finalement, on a un peu le niveau des actions, c'est assez simple. Mais la prise en main du jeu va être difficile. Et on va retrouver ce que ce qui fait qu'on a beaucoup aimé en fait ce jeu. On va devoir construire des bâtiments qui vont nous permettre d'acquérir des ressources puis de les transformer en d'autres ressources. Et en ça, on se rapproche en fait de ce qu'on avait dans Neuland, vieux jeu sorti chez
Gartspeed. Le jeu vous pouvez pas connaître. Non,
Le Havre peut-être. Non, pas Le Havre. Et ouais, il y a Le Havre, on transforme un petit peu, mais moi j'ai carrément pensé en fait plus loin au jeu Splatter. Donc Splatter, c'est des jeux comme Roads and Boats.
Excuse-moi.
On est en mode.
On va pas. Ouais, voilà. Gamer. C'est vous qui vous mettez juste aux jeux de société. Ce jeu n'est pas fait pour vous.
Non, voilà, c'est ça.
Vous qui avez un petit peu de bouteille, vous pouvez y aller, mais ça va vous paraître un peu hard. C'est quand même là Aura Elabora. C'est quand même quand on compare aux jeux Splatter. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un dossier également sur ça.
Ah bah sans problème, Splatter. Bon,
et ben, tu vois, c'est le pendant des jeux Gateway Game. C'est des jeux qui sont longs, qui sont exigeants, qui sont superbes, mais qui sont tellement, tellement exigeants que.
Roads and Boats, comptez 6 heures à 4.
Bah, c'est 2 heures par joueur.
Ouais, Roads and Boats, on fait 6 heures à 4 joueurs.
Mais vous avez fait combien de parties aussi?
Pas beaucoup, puisqu'il faut trouver 6 heures, donc, faut confier les mots, mettons, on joue en journée sur ce genre de jeu. Alors, on a fait 4-5 parties, peut-être.
Ouais, 4-5 parties, vous êtes quand même un petit peu rodé. Vous commencez à avoir une vision du jeu qui est.
Oh oui, la partie doit remonter à plus de 4 ans, donc on est plus rodé, mais. Voilà, donc dans Aura Elabora, j'ai retrouvé un petit peu ce concept, où il faut vraiment optimiser. Le problème, c'est que ça devient très calculatoire quand même, faut le signaler. C'est pas tous les joueurs qui arrivent à lire suffisamment le jeu pour bien voir qu'ils vont pouvoir faire telle action, puis ensuite telle autre, etc. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les bâtiments, on les construit chez soi. Mais un petit peu comme dans Kielus, en fait, c'est pas parce que toi, tu n'as pas construit, enfin, c'est ton adversaire qui construit un bâtiment que tu ne peux pas l'utiliser.
Ouais.
Tu vas le payer, il va l'utiliser. Et il y a même une petite interaction là-dessus, puisque du coup, c'est lui qui place ses propres pions sur ses bâtiments et tu peux l'empêcher, en fait, du coup, de l'utiliser et toi, tu utilises à tes propres fins. C'est sou, mais ça, je n'hésite pas à le faire dans les phases terminales du jeu, quand même, où il faut, on est là pour scorer, quoi. Voilà, donc Aura Elabora, non, j'ai vraiment beaucoup beaucoup accroché. Le Havre, j'étais plus mitigé en fait sur Le Havre. Je sais pas pourquoi, je le trouvais plus froid ou par rapport au bâtiment, etc. Pourtant, c'était déjà bien. On y est passé, c'est pareil, c'était, on avait pas mal joué pendant les vacances. Et Aura Elabora, je serais plus immersif, plus déjà c'était plus joli. Mais c'est plus dur, hein.
Ouais, c'est beaucoup. Alors c'est beaucoup déjà Le Havre, c'est déjà pas mal dur parce qu'il faut avoir une vision. Tu parlais de vision du jeu, c'est ça?
C'est ça, ouais. Il y a une vision, une lecture du jeu qui est pas évidente. Hein.
Il faut se dire que à plusieurs tours, on va préparer son jeu pour avoir telle matière première qui pourrait être transformée, qui va nous donner tel point.
Heureusement, il y a des bonnes aides de jeu.
Et dans Aura Elabora, c'est encore pire parce qu'on a une double transformation, j'ai l'impression. On va transformer ces matières premières qu'on va encore transformer.
Oui, parce que le but, c'est de transformer pour avoir des merveilles. Donc, il va falloir effectivement faire plusieurs transformations.
Ouais, et
plusieurs stratégies applicables. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, il y a deux. On peut jouer avec deux modes. Les bâtiments, ils sont biface. Enfin, les cartes, etc. On peut jouer mode France ou Irlande, j'allais dire Italie. Et on peut.
Bah oui, le whisky, c'est italien, c'est bien connu.
Voilà. Et donc moi j'ai joué pour l'instant que sur la version France parce qu'on s'est dit tant qu'à faire faut monter en puissance sur une version, mais donc c'est à dire que quand on pense qu'on a fait le tour du jeu, parce que je pense que ça peut arriver au bout d'un moment,
rebelote,
on peut changer, on passe de l'autre côté et je suis sûr que ça change encore le jeu. C'est incroyable, le travail de ce jeu il doit être colossal en matière d'édition, de test, un jeu qui est pas prêt de quitter ma bibliothèque.
Ouais, en fait c'est un triptyque, on a Agricola, on a Le Havre et puis on a Aura Elabora. Qui sont trois jeux de pause d'ouvriers, trois jeux où il y a des ressources, de collecte de ressources et de développement, mais qui sont traités de façon complètement différente et qui sont pas, à mon avis, chronologiques. C'est-à-dire que, et si je me trompe pas, Uwe Rosenberg n'a pas conçu Agricola en premier. Et il avait certainement quelque chose de plus lourd, mais tu pouvais pas avoir Aura Elabora tout de suite.
Aura Elabora, il a conçu en 2009, donc non, je pense qu'il a conçu après Agricola.
Ah, oui, mais avant Le Havre? Non, je sais pas.
Peut-être qu'il a
fait, il a peut-être une version un peu plus off de,
parce ouais, c'est
que sinon
possible.
tu peux pas rentrer dans, enfin allez-y doucement quoi, c'est
ouais
prenez vieux, votre temps,
vous êtes déjà des vieux briscards, vous avez quelque chose qui vienne un petit peu vous challenger, ben voilà, c'était le jeu de l'année, vraiment sympa niveau gestion de ressources.
Donc Aura Labora, c'est une nouvelle fois Uwe Vanzenberg qui est sorti chez Lookout Games en allemand. Chez Philosophia en français, c'est pour 1 à 4 joueurs, ça se joue très bien tout seul. Il faut faire le plus gros score possible. Ouais. Compter 2 heures à 2. Et je pense que j'y jouais peut-être à 3, mais à 4.
À 4, c'est 4 heures facile. Hein.
Voilà. Et c'est un monument, mais comme tous les monuments, pas facile d'accès. Et puis Jérémy, tu voulais nous parler d'un autre jeu. Alors on va peut-être prendre un petit peu plus de temps pour parler de Mare Balticum.
Ouais,
on a parlé des jeux auxquels on a un petit peu joué pendant cet été, qu'on a aimé ou pas. Et Mare Balticum, c'est un jeu d'Essen 2011, à côté duquel on est passé.
Même 2010 en fait.
Ah bon ?
Ouais.
Déjà ?
Ah ouais, ils avaient sorti Magnum Sal en 2011. Uh-huh. Ouais, c'est un jeu de... Attention, hein, alors là je vais écorcher son nom parce qu'il est caractère, je ne sais pas lire. Donc Philippe Milunski. Mais le L, il est barré, il y a un accent sur le N, donc je ne sais pas. Par l'éditeur Leonardo Games, ouais, je sais pas. C'est un jeu, en fait, de, on va dire, du pick-up and delivery. Un jeu de pêche, en fait. On va jouer des pêcheurs qui vont aller pêcher du poisson et qui vont aller le revendre dans les ports. Un look très très sympa, un peu style pâte à modeler. Et une règle ultra simple qui fait que, du coup, on peut le jouer en famille. Et moi, je l'ai joué avec mes enfants. Et parce qu'en fait, je cherchais un jeu, j'aime bien avoir un petit jeu de gestion pareil pour jouer avec mes enfants pendant les vacances. Et donc, après avoir trifouillé un peu partout, voir un peu ce que je pouvais sortir, parce que les pauvres, ils ont déjà joué à tellement de choses que c'est difficile de sortir de la nouveauté, etc. Non, mais en plus, un nouveau concept.
Les enfants blasés. Je sais pas si t'as vu sur Twitter. Non, t'es pas sur Twitter, toi. C'est moi le Twitter de.
Je suis peu sur Twitter, moi.
J'ai mis sur Twitter une allocution de Croc. Je vous le remettrai dans ce podcast sur les enfants de gamers et ce qu'ils deviennent. Donc,
j'ai peur.
Oui, mais t'as raison d'avoir peur. Voilà.
Bon, voilà.
Et ça correspond tout à fait à ce que t'es en train de dire.
Bah oui, bref. Donc voilà. Bah écoute, je verrai après. Et en fait, ouais, c'est un jeu. Alors, Aïssen nous avait été présenté l'année dernière. J'avais dit oui, bon, la règle est simple, mais je voyais pas trop l'intérêt d'y jouer entre adultes. Au final, en fait, maintenant j'ai qu'une envie, c'est de tester à 4 adultes.
Mais, à ce point-là.
Ouais, parce que, alors, la bonne idée du jeu, donc, c'est-à-dire que ça représente, alors, vu que c'est un jeu qui est, je sais pas quoi, danois ou je sais pas où, c'est la mer Baltique. Donc, entre Copenhague jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il y a plusieurs ports. Les bateaux, chaque joueur a 4-5 bateaux en fonction du nombre de joueurs. On va mettre des poissons sur des cases de mer. Il y a des cases de mer profonde où on met deux poissons. À son tour de jeu, on a 3 actions. La première action, c'est naviguer. C'est-à-dire qu'on prend, en fait, on a nos pions bateaux qui forment un groupe sur la carte, sur plusieurs cases. On prend un bateau du groupe et on le met ailleurs, mais il faut toujours qu'il soit connecté au groupe. Donc il y a une notion d'un petit peu de navigation, comme ça, de groupe. Enfin, il faut bien gérer sa navigation. Ça, c'est une première action. Autre action, on peut pêcher un poisson. C'est facile.
Un seul
poisson. On prend un jeton, là où on a son bateau, et on le met sur son plateau. On a un petit plateau individuel qui correspond en fait aux soutes de ses bateaux. Sur les soutes, on peut stocker 5 poissons maximum. Ensuite, la troisième action qu'on va faire de temps en temps justement, c'est-à-dire qu'il faut ramener sa flotte au port et dans ces cas-là, il faut vendre ses poissons au port. La bonne idée du jeu, c'est qu'au début de la partie, on va piocher au hasard la demande en fait des ports. Donc il y a des ports comme Saint-Pétersbourg qui acceptent 2 poissons, il y en a comme des plus petits comme Copenhague qui n'acceptent qu'un seul poisson. D'accord.
Des sirènes ?
Non, alors c'est du saumon, c'est du carrelet.
Excuse-moi de vouloir mettre
y a de la morue.
Un peu de.
Je sais pas si. Par rapport à la sirène, non ? Ah non.
Non, je voulais inclure un petit peu de culture dans ce podcast, mais ça marche pas.
Non. Non, il n'y a pas.
Pour ceux qui se demandent, la petite sirène, elle vient de Copenhague.
Ah, pardon, je n'ai pas cette culture.
Ouais.
C'est Andersen ? Le compte ?
Ouais.
Ah bah voilà. Donc il y a 4 types de poissons, ouais. Il y a les saumons, les harengs, les morues et les carrelets. Et puis il y a de l'ambre aussi qu'on peut pêcher.
Quoi ?
L'ambre.
Et l'ambre solaire ?
Non, ouais, l'ambre, tu sais, comme dans Jurassic Park là.
Mais ça vient de la mer, l'ambre ?
Bah, on va croire qu'ils en pêchent beaucoup dans la mer Baltique, je sais pas. Tu sais, chez nous, c'est des sacs poubelles, des trucs comme ça. Bah oui, ils doivent pêcher de l'ambre. Ou c'est une manière soft de dire qu'on pêche des détritus.
Donc, ok, d'accord.
Bon, bref. Donc, la troisième action, c'est on peut vendre des poissons au port. Comme on a les soutes qui sont limitées à 5 poissons, il va falloir de toute façon y aller à un moment. Autre particularité, c'est qu'il y a deux ports qui acceptent une catégorie de poissons à moins 1. Par exemple, si je vends 3 saumons et qu'il y a le poisson à moins 1, je vais en garder que 2 pour moi. Les poissons que j'ai livrés au port, en fait, je les mets dans mes entrepôts, face cachée. Je les garde jusqu'à la fin de la partie. Bon, jusqu'ici, c'est assez basique. Quand une case mère est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bateau ni de poisson dedans, on va piocher dans un sac, on va piocher un nouveau poisson à mettre dessus. Et parmi les jetons poissons, il y a des jetons horloge, marqueur, temps, qui vont arriver. Quand on en pioche un, on arrête la partie, et les joueurs vont devoir fixer leurs objectifs. Et c'est ça la grande richesse du jeu. C'est-à-dire que tu vas devoir décider quelle catégorie de tes poissons va te rapporter 3 points, ou 2 points, ou 1 point, ou 0 point. Donc quand le premier marqueur temps arrive, bah tu choisis. Par exemple, tu dis déjà, oh, je suis parti à fond sur le saumon, je mets déjà 3 points. Ou alors tu te dis, bon, bah de toute façon, je sais pas, la morue c'est perdu, je ferai 0, je mets 0. N'est-ce pas?
La morue c'est perdu.
La morue c'est perdu. Très bon slogan. Et il y a un cinquième marqueur qui est, il faut payer deux jetons, soit des poissons ou des ambres, qu'il faut payer à la banque, quoi qu'il arrive. Si on s'y prend mal, ça peut faire très mal, hein, parce que les seuls poissons qu'on a, c'est ceux qui scorent à x3, et dans ces cas-là, et ben, ça fait très mal au niveau des points. Et quand on pioche le dernier jeton, on fait un dernier tour de table, et ensuite, c'est la fin de la partie. Les joueurs révèlent les poissons qu'ils ont dans leurs entrepôts, pas ceux qui sont dans les bateaux, et les points qui s'étaient attribués.
Comment ça se passe? Quelle proportion du jeu t'as avant de devoir miser, valoriser ton
poisson? Tu peux pas savoir, ça dépend des parties. Puisque c'est au hasard que tu vas piocher... En fait, si tu veux, au début de partie... Comme tu remplis les cases de mer, qu'à partir du moment où il n'y a ni bateau ni poisson dedans, on va dire que tu as le premier cinquième, premier quart de partie, globalement, tu n'as pas de risque qu'on te demande déjà de miser sur un type de poisson. Mais après, ça dépend. Tu peux très bien avoir pioché quasiment tous les marqueurs temps à la fin. Tu peux très bien même avoir en pioché deux ou trois d'affilée, ce qui va faire mal. Hein. Enfin, tu ne peux pas prévoir.
Combien tu en as?
Il y en a 6. Les 5 premiers.
Au premier marqueur de temps, tu vas miser sur un poisson, ouais. Au deuxième sur un autre poisson.
Tu mets comme tu veux, ou bien tu mises sur les poissons, ou bien tu payes déjà ton impôt payer deux poissons ou ambres. Et à la fin de la partie, les ambres valent tous un point. Quoi qu'il arrive. On va souvent négliger
les ambres.
L'ambre, ça peut vite faire beaucoup de points.
D'accord.
Toutes les stratégies sont possibles, en fait, c'est ça qui est très fort dans le jeu, c'est-à-dire qu'il faut être capable de s'adapter vraiment à ce que font les autres. Mais vraiment, parce que tu vas te dire, ok, personne n'est parti sur ce type de poisson, j'y vais, et puis d'un coup, revirement, par exemple. Parce que globalement, de toute façon, tous les poissons sont à peu près répartis équitablement, il y a autant de jetons, donc des fois...
Il n'y a pas de rareté, il n'y a pas de...
Non, okay. Donc tu vas voir la morue qui va d'un coup, par exemple, tu ne la vois pas beaucoup en début de partie, tu sais qu'elle va surgir enfin, donc à toi de savoir comment tu vas miser, et surtout, tu te fixes tes objectifs. C'est toi qui te dis, ok, ben, je vais partir à fond sur celui-là de poisson ou tel autre. Tout passe donc par l'observation de ce que jouent les adversaires. L'avantage d'un petit jeu comme ça, en plus, c'est qu'une partie, c'est 30 minutes. Donc, règle ultra simple. 3 types d'actions, naviguer, pêcher ou livrer à un port. On fixe ses objectifs à des moments clés du jeu. Et un scoring très simple à évaluer en fin de partie.
Ok.
Voilà, et ce qui fait que ça donne un jeu qui est adaptable, enfin, que même les enfants peuvent jouer. Et c'est pour ça que je dis, en fait, la règle, elle est simple, mais du fait qu'on fixe ses objectifs, je pense qu'en fait, même avec des adultes, effectivement, ça peut amener...
Grosse valeur ajoutée, c'est une idée simple, mais qui fait toute l'idée du jeu.
Okay. À noter qu'il y a aussi une notion de contrat qu'on peut avoir dans le jeu, mais...
C'est un niveau de jeu supplémentaire?
Ouais, mais en fait, je ne l'ai pas joué. J'ai joué essentiellement avec les enfants. Je n'ai pas introduit ça parce que... Pour pas trop compliqué.
Ça, on le conseille clairement pour... c'est familial, mais on peut y jouer avec d'autres joueurs adultes.
Ouais, je pense, en fait. Je l'ai pas testé encore avec des adultes, mais en fait, je me dis que oui, c'est possible.
Donc, Marie Baltikum, Philippe Milunski et Piotr Slaby. C'est un jeu polonais de 2011, et pour 3 à 5 joueurs à partir de 6 ans, 30 minutes, et vous le trouverez dans vos boutiques plutôt spécialisées pour à peu près 30 euros.
Oui, je pense que c'est le problème, c'est que je vous ai vendu un jeu, par contre, à trouver, vous allez vous marrer. Par contre, 6 ans, je pense que c'est un petit peu chaud. Ma fille de 6 ans y a joué. Par contre, est-ce qu'elle a perçu toute la dimension stratégique du jeu? Je ne pense pas. Encore que, elle a fait parfois des scores incroyables en misant à fond sur l'ambre, comme quoi. Mais comme je dis, elle a eu du bol en fait, parce qu'il faut s'adapter normalement à ce que font les autres et est-ce qu'un gamin de 6 ans n'est pas capable.
Voilà, donc là, c'est, on vous a parlé des jeux de société qu'on a, on a bien aimé cet été. Alors, toujours pareil, sur le site de ProxyJeux, vous pouvez mettre des commentaires et vous pouvez nous dire ce que vous avez apprécié. Si vous voulez qu'on fasse des dossiers ou qu'on parle d'un jeu ou d'un autre, ben, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on a oublié de dire tout à l'heure qu'il fallait nous noter sur iTunes.
Eh oui, ben maintenant, avec une semaine de retard, vous le savez.
Et donc, dans la nouvelle formule de ProxyJeux, la saison 3...
Qui lave mieux, plus mieux.
nous allons vous parler de jeux en général, jeux de société, jeux de plateau ou jeux sur écran. Et puisque nous avons parlé de jeux sur table, et bien maintenant, Jérémy va vous parler de Summoner Wars, dont on vous a parlé la semaine dernière, pour vous dire que les 1000 premiers exemplaires étaient gratuits. Donc le 29 septembre, je vous rappelle, allez chez votre boutiquier préféré et puis vous lui dites « c'est gratuit, allez, à boule le Summoner Wars ».
Allez-y tôt. Hein.
Et voilà, allez-y tôt. Ou alors vous lui donnez la pièce avant pour qu'il vous en garde un de côté. Donc Jérémy, Summoner Wars sur iPad.
Donc Summoner Wars, c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs avec une notion de construction de deck. C'est un peu un JCE, on peut dire un jeu de cartes évolutif. Qui est sorti initialement en 2009. Alors en 2009, il y avait 4 peuples, et puis petit à petit, ils ont amené des nouveaux peuples, et puis des cartes de renfort, des sortes de mercenaires, etc., qui vont permettre de booster les decks et de changer les stratégies. La règle est simple, bien sûr, chaque joueur en fait a un leader, un summoner, donc un magicien, on va dire, qui va pouvoir invoquer d'autres
un invocateur, créatures. En fait.
Un invocateur, yes, merci Olivier. Le but donc c'est de le tuer, évidemment ils ont plus de points de vie, ils sont plus forts que les autres, et le jeu repose sur 6 phases ultra simples qui est il va falloir déplacer ses unités, invoquer des nouvelles unités, etc. Les déplacements, on peut déplacer maximum 3 unités de 2 cases maximum. Les combats maximum, c'est 3 unités qui font des combats, des unités avec des armes de contact, et ben c'est au contact sur la case à côté évidemment, et sinon c'est à distance, les archers tirent à 2 cases. Ultra simple là aussi. On joue sur un plateau de 6 cases par 6. Et puis on peut avoir des murs. Les murs, en fait, ils ont simplement beaucoup de points de vie. Et ils vont, c'est autour d'eux, quand on invoque d'autres cartes, d'autres créatures, qu'on va les passer à côté. Voilà, l'intérêt, c'est que la règle est simple, en fait. On sait très facilement, c'est 3 déplacements, 3 combats. On se pose pas de questions. Vraiment.
Ouais, surtout que le device gère la portée des unités et c'est un peu plus, un peu moins compliqué quand tu es sur la carte de Summoner Wars, le jeu de plateau.
Le jeu de plateau. Ouais, mais voilà, mais même ça, enfin, on y arrive quand même. On peut pas revenir en arrière, par contre. Des fois, c'est un peu nul.
Oui, c'est toujours nul de pas pouvoir revenir en arrière dans un jeu comme ça.
Ouais, ouais.
Parce
ouais,
que
ouais.
Tu fais toujours des erreurs, surtout que.
Bah, surtout, voilà, avec les, ouais. Ouais. Et du coup, ben, c'est tant pis pour toi. Tu feras mieux la prochaine fois, ce cas-là. Mais c'est non, mais c'est nul, mais c'est des parties d'apprentissage.
C'est souvent, comme Yoda, il dit, hein, faire ou ne pas faire, il n'y a pas d'essai. Hein.
Ouais.
Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il dit.
En ouais. Mais il le dit mieux, en fait.
Tout à fait.
Bon, bref. Autre dimension qu'il y a dans le jeu, en fait, c'est un petit peu win-to-win, ça, quand même. Dans la règle du jeu, par rapport à la règle du jeu, c'est-à-dire qu'on a 5 cartes en main et on va gagner des points de magie. Quand on tue une unité adverse, on gagne un point de magie. À la fin de son tour, les cartes qui nous restent en main, on peut décider de les défausser. Et dans ces cas-là, on peut avoir d'autres points de magie. Je crois que le deck il fait 30 cartes. Et en fin de partie, si on a plus de cartes dans sa pioche, et ben c'est tant pis pour toi. Donc il va falloir faire attention à comment on va défausser les cartes, hein, pour gagner des points de magie. Mais ces points de magie, c'est eux qui sont dépensés pour invoquer des nouvelles créatures. Et c'est là où le jeu est un petit peu win-to-win. C'est-à-dire que si tu as commencé à prendre l'ascendance sur ton adversaire et lui éliminer des unités, tu as marqué des points de magie qui vont te permettre d'amener des nouvelles unités sur le terrain, et ainsi de suite. Et puis il y a des cartes événements qu'on peut jouer, notamment les murs peuvent être joués pendant la phase d'événement. Et les cartes événements, ça peut être infliger des blessures sur une autre créature, même supprimer, éliminer directement une créature.
Est-ce que tu as la carte détruiser toutes les créatures en jeu?
Non, il n'y a pas.
Non, c'est pas. Non, ça c'est Armageddon, Magic. Ok, d'accord. Ouais. Okay.
Y a
c'est
pas.
Nul alors.
C'est jour de colère maintenant, condamnation. Okay. C'est fini, Armageddon, Magic.
Capri, c'est fini.
Aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est tout bon.
Donc des règles assez simples, mais qui sont forcément cassées par les cartes, les différentes cartes.
Ouais, mais pas tant que ça.
Enfin, cassées, je veux dire, qui sont brisées, quoi. modifié.
Merci, merci. Quelle participation active de Ludivine, pertinente en plus.
Ah, mais si une règle va à l'encontre de la, si le texte d'une carte va à l'encontre de la règle, alors le texte de la carte prime.
Ouais, voilà.
Voilà, c'est ça.
Parfait. Et les peuples, ils ont tous des capacités bien différentes. Là, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, les peuples sont suffisamment différents pour avoir une stratégie propre. C'est important. Ah oui, par contre, détail qui peut agacer, les combats sont résolus au dé. Et là aussi, la règle est simple quand même, parce qu'on lance les dés, tous les dés qui font 3 ou plus, ça score automatiquement. Bon, donc oui, donc les combats sont résolus au dé, malheureusement. Bon, mais la règle est simple, c'est les 3 ou plus. Mais quand on a Ashkumun, on peut l'avoir jusqu'au bout.
Ouais, mais est-ce que c'est pas justement fait pour que ça, ça permet de pas trop se prendre la tête et se dire, bah voilà.
Si, puis enfin, ça paraît logique. Enfin, moi, c'est un jeu d'affrontement. Enfin, au combat, rien n'est joué avant la résolution, quoi. Non, mais ça fait, c'est une dimension à prendre. C'est pas. L'autre dimension du jeu, évidemment, très importante, c'est que l'on va pouvoir builder le deck. La construction du deck, comment ça se passe? En fait, on choisit quel est notre invocateur que l'on va jouer. Ça impose automatiquement les cartes d'événements. Là, malheureusement, on peut pas les choisir, elles vont avec. Et ensuite, on va pouvoir, il y a des cartes de niveau mais qui sont communes et des champions.
Excuse-moi, c'est bien, c'est thématique.
Ouais, c'est thématique, mais des fois, il y a des cartes événements, tu les aurais pas, ça t'arrangerait presque.
D'accord, ok.
En fait, ça correspond pas peut-être à ma façon de jouer, du coup, il faut pas que je joue cet invocateur, j'en sais rien. Et donc, oui, dans le reste du deck, c'est des cartes, on va dire, des unités communes, et puis on a le droit à des champions, on a le droit à 3 champions. Et donc, on peut aller ensuite choisir dans toutes les cartes disponibles, on peut remplacer certaines cartes. On n'est pas obligé, en fait, on joue une faction, mais on va pouvoir remplacer quelques cartes de notre faction par une autre. Je suis pas allé encore très très loin dans cette partie de construction deck, puisqu'il y a quand même... en gros, je crois 8 factions différentes, donc j'en suis encore à la phase d'apprentissage de toutes les possibilités de ces factions. Donc ça, c'était pour présenter le jeu grosso modo tel qu'il est. Maintenant, je vais parler un peu du portage, ce que ça donne sur l'iPad. Donc globalement,
pas mal. Hein.
Ouais, c'est bien fait. Alors, je vais venir après sur les petits détails techniques que j'aurais voulu améliorer. Ce qu'on peut faire par contre déjà, c'est qu'on peut jouer à deux sur le même iPad. C'est déjà agréable.
Avec en face à face.
En face
ou
à
on
face.
On passe the iPad.
Non, en face à face. En pass and play. Ouais. Donc surtout on va jouer en réseau. En fait, c'est un jeu. Si on joue en solo, on peut jouer contre seulement entre guillemets 4 AI différentes. Enfin, il y a 4 decks d'intelligence artificielle disponibles et pas plus. Donc ça permet quoi? Ça permet de s'approprier le jeu et ça permet de tester son deck qu'on vient de construire. Mais l'essentiel du jeu après derrière, ça va être affronter d'autres adversaires en mode en ligne. Ça, c'est vraiment important. L'avantage de l'iPad, il a un bon format, 10 pouces pour représenter le plateau, ça va bien, 6 cases par 6 cases. Les cartes, c'est un jeu qui est fait par Playdeck, ils ont déjà fait Nightfall, et puis je l'ai mangé le nom, mais...
Donc c'est pas des perdreaux de l'année, c'est ce que tu veux dire.
Voilà, mais ils savent déjà bien faire la représentation des cartes, etc.
Ouais.
C'est très bien. Alors par contre, c'est sûr que quand ils montrent une unité, il faut double-cliquer dessus pour revoir son effet spécial. Mais rapidement, il n'y a pas beaucoup de cartes sur un plateau. En même temps, on les maîtrise rapidement. Là-dessus, tout est simple. Il y a toujours le petit symbole, le petit côté visuel. Ah oui, c'est comme Ascension. Voilà, on sait quand on peut finir une phase. Il y a un bouton End Phase. Il est en vert quand... on a vraiment fait toutes les actions, et s'il reste des actions à faire, il est en rouge, qui permet de mettre la puce à l'oreille et de dire « Ah oui, c'est vrai que là, je peux encore faire quelque chose. » Et des fois, c'est en surbrillance.
Ouais, c'est une aide au jeu, c'est comme la portée, c'est comme le déplacement. De toute façon, tu te poses pas de questions. À la limite, tu te poses pas de questions parce que tu sais que tu pourras pas faire le déplacement si tu ne peux pas, si tu n'en as pas le droit.
Ouais.
Tu peux pas parce que tu peux pas, ça se dit pas. Tu peux pas tirer sur tes ennemis si tu peux pas. Et en fin de compte...
Tu peux te friter entre unités...
Ami,
si tu veux.
Ah, pas mal. Friendly Fire.
Et il te le dit, en fait.
Il était devant moi, il a pris la flèche.
Ah, mais il te le dit. En fait, quand t'es à la phase du combat, par exemple, t'as tes unités qui sont en rouge, sont surlignées en rouge, ça veut dire que tu peux tirer, combattre des unités adverses. Mm-hmm. Elles sont en jaune quand tu peux te friter contre toi-même.
D'accord.
Je sais pas. Peut-être qu'il y a une utilité, mais j'en suis pas encore arrivé là.
Ok.
Mais il doit y avoir, hein. Donc là-dessus, réalisation impeccable. Après, moi, j'ai trouvé, mais ça devient peut-être le jeu en version anglaise. Je connais pas encore la version française. Les cartes événements, elles ont toutes la même illustration. Donc, c'est-à-dire que quand tu les as dans ta main qui est affichée sur la gauche, tu es obligé de double-cliquer sur les cartes événements pour lire le texte, de toute façon. Et comme elles ont toutes la même illustration, ben, tu ne peux pas mémoriser par rapport à une illustration. Donc, bon, je pinaille, mais c'est dommage quand même. Ce que j'ai trouvé d'autre, c'est la police qui est utilisée sur les cartes. C'est pareil, il n'est pas super lisible, ils auraient mis une police plus basique. Alors, certes, c'est moins immersif, mais c'est plus lisible directement. Précision passage, quand on parle de lire, évidemment, le jeu n'est qu'en anglais. ce qui peut en gêner certains, je suis désolé pour eux. Mais c'est le cas de beaucoup de jeux de toute façon maintenant.
Il faut parler anglais, les gens.
Voilà, ouais, enfin au moins le lire. Et puis il y a parfois aussi, c'est pareil, en fait, quand on doit gérer des cartes, ces cartes en main, elles apparaissent sur un bandeau sur la gauche. Et quand il apparaît, il n'y a pas moyen de je ne l'ai pas trouvé, pour le faire recoulisser, parce que j'aimerais bien voir les unités qui sont dessous le petit panneau là.
Bah oui, oui.
Voilà, mais c'est, pour moi, c'est des petits détails de réalisation qui seront sans doute corrigés rapidement dans les prochaines versions. Enfin, j'espère qu'ils trouveront un moyen pour qu'on puisse recacher ce petit panneau. Et autre effet intéressant, on peut enregistrer jusqu'à 6 parties différentes sur son iPad. Quand on crée des parties.
Peux commencer une partie, l'arrêter, en commencer une autre.
Ouais.
Ça, c'est bien.
Donc
ça,
surtout quand tu comptes des joueurs humains, évidemment, contre des IA, ça arrivait moins souvent, mais 6 parties, ils ont vu large.
Si tu perds, tu dis, ben, c'est pas grave, je vais en faire une autre.
Ouais. Dans ce cas-là, tu dois pouvoir la supprimer. C'est plus simple.
Ok.
Et voilà.
Et donc, en conclusion,
bah, comme c'est
gratuit. Tu recommandes ou pas?
Bah, oui, parce que, pour rappel, le jeu est gratuit.
Le jeu sur iPad,
ouais.
Les 1000 premiers sur iPad, c'est gratuit.
Et vous avez, je sais plus, parce que du coup, maintenant, j'ai racheté les autres decks, mais vous avez deux factions, je crois, pour découvrir le jeu. Donc, ça vous coûte rien d'essayer le jeu et de voir si ça vous plaît. Donc, ça, déjà, c'est génial. Et après, si vous voulez acheter, donc, les decks supplémentaires par faction, c'est 79 centimes. Le problème, c'est que du coup, c'est difficile, à moins de connaître le jeu de plateau, c'est difficile de savoir à l'avance ce que voit une faction. Donc finalement, sinon, vous avez un bundle pour 6€, vous avez la totale.
Ça va.
Donc franchement, il faut y aller. Hein. On va pas chipoter. À noter par contre, puisqu'on en est sur les achats in-app, etc., moi j'ai un iPad 1, j'ai un plantage 2 fois sur 3 si j'ai dans cette partie-là. Quoi. Je sais pas si ça met de l'iPad 1 ou si c'est le cas aussi sur d'autres iPads, mais c'est souvent le cas des iPad 1 s'ils ont peu de mémoire en fait.
Écoute, moi j'ai joué sur iPhone et j'avais pas de problème. Mais
Non, mais c'est pas pendant les parties, c'est que quand je vais dans la partie App Store, que tu vas choisir tes in-app purchase. Je pense que ça passe pas le
moment. Ah, ils veulent pas que t'achètes en fait. Ok.
Ben, c'est limite ça quoi. Okay. C'est pour t'encourager en fait, la rare fois où t'arrives à y aller, t'as intérêt à prendre le bundle complet. Sinon, tu pourras pas y aller. Toi.
Parce que sinon après, ça marche pas. Summoner Wars sur iPad, c'est gratuit, plus de l'IAP. In-app purchase pour 0,79 centimes par deck. Donc c'est vraiment très bien pour commencer à apprendre les règles et puis à découvrir le jeu. Et puis si ça vous tente, il y a un bundle avec les 8 extensions pour 6€, 5,99€. Et puis moi, je voulais vous parler de Lost Cities. City, c'est disponible actuellement pour 2,99€ sur iOS 5, à partir d'iOS 5, mais normalement vous y êtes passé. C'est un jeu de Rainer Knizia des années. C'est du 20e siècle. Là, on parle d'un jeu qui est.
Du siècle dernier, qui est
de 1999. Ça fait partie des jeux à deux Cosmos, dans lequel on retrouve Babel, César et Cléopâtre, des jeux comme ça. Il y avait toute une gamme, et là, City en fait partie. Le partage, c'est un portage de Coding Monkeys. C'est les gens qui sont allés à l'origine de l'excellent portage de Carcassonne.
Sur iPad.
Sur iPad et iPhone. Donc c'est vraiment une référence. Et le jeu est jouable soit en local, soit en ligne via le Game Center. Donc on retrouve la même construction qu'avec Carcassonne. Si vous avez des amis et qui partagent le même centre, enfin, qui ont également acheté le jeu, vous pouvez jouer avec eux exactement comme Carcassonne. Je suis pas sûr que Lost Cities ce soit exactement la même chose parce que c'est quand même pas le même jeu. Mais bref, c'est pas non plus le même prix.
Ah, par rapport à Carcassonne, tu veux dire.
Ouais, tout à fait. Les règles sont super simples, super claires. Et il y a un truc qui est rigolo dans ce jeu.
Ouais, en anglais quand même.
En anglais, le jeu est tout en anglais. Mais par contre, on peut se les faire lire. C'est-à-dire, si tu préfères, alors si t'es plus fluente à l'oral qu'à l'écrit. La petite nana, elle peut t'expliquer les règles plutôt que tu les lises.
Ouais, j'ai trouvé que c'était original. C'est la première fois que je vois ça pour un jeu, c'est pas bête. Par contre, je trouvais le débit un petit peu lent. Enfin, il y a des pauses un peu longues.
Mais justement, c'est pour les gens qui sont pas fluentes.
Ouais, peut-être. Mais c'est, en tout cas, j'ai trouvé ça très bien.
Bref.
C'est original et à mon avis, on va le voir de plus en plus souvent.
Donc, la possibilité de jouer contre 4 IA avec. C'est rigolo parce que t'as des pourcentages de parties gagnées en fait.
Pour noter leur force,
ouais,
tu veux dire.
Ouais, t'as 35%, 88% pour la plus efficace. Donc t'as 4 IA. Je les ai pas testées, donc je peux pas vous dire si la plus forte est vraiment forte, parce que je suis pas très bon à ce jeu, donc forcément, voilà. Mais une gradation, et puis on peut. Ce qui est rigolo, c'est qu'à force de gagner des parties, en fait, vous aussi, vous aurez un ratio. Vous aurez un Elo, en fait, et vous allez pouvoir vous mesurer, en fait, aux
T'as un
différents
Elo à combien? 98%?
7%. Non, j'ai pas
Ah
beaucoup
oui.
joué non plus. J'ai pas beaucoup joué non plus. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est le tutoriel. Alors, le tutoriel, c'est un tutoriel classique, c'est-à-dire qu'on va vous allez avoir des instructions, et puis il va falloir faire ce qu'on vous dit, mais vous pouvez faire autre chose. Enfin, en règle générale, c'est pas un tutoriel où vous suivez bêtement ce qu'on vous dit en disant, bah, maintenant vous prenez cette pièce-là, vous la mettez là, ou cette carte-là, en l'occurrence, vous la mettez là. On peut arriver en fait à perdre le tutoriel. On peut faire n'importe quoi et puis on peut ne pas gagner. Si, j'ai réussi à secouer la tête, mais on peut perdre le tutoriel.
Si, oui, je l'ai perdu en fait.
C'est vrai. Bon, voilà.
À 2 points.
On va avoir des cartes dans 5 couleurs différentes, numérotées de 2 à 10, et puis on va avoir aussi des cartes pièces. Les cartes pièces, c'est simplement des multiplicateurs, c'est-à-dire que chaque carte va rapporter sa valeur faciale. Par contre, si on pose avant des cartes pièces, on va multiplier par 2, par 3 ou par 4 le nombre de cartes
Le
qu'on va
score.
poser, le score qu'on va poser. Et ça sera tout bénef, mais il faut d'abord poser des cartes pièces, et c'est ça le plus compliqué dans l'histoire. Chacun à son tour joue une carte. Sur une des 5 lignes, on n'est pas obligé d'ouvrir toutes les lignes parce que chaque ligne va, en fait, ouvrir une ligne, ça coûte 20 points. Donc déjà, quand tu ouvres une ligne avec un 2, eh ben, tu vas te retrouver avec 18 points de malus, et ça, c'est mal.
C'est difficile.
Ben, c'est,
faut que
c'est...
faut que tu joues des grosses cartes.
Voilà, il faut que tu, quand tu ouvres une ligne, il faut que tu te dises que tu vas aller un peu loin, surtout que tu vas dépasser les 20 parce que sinon ça n'a aucun intérêt. On peut jouer les cartes que dans un ordre croissant, donc c'est aussi une contrainte forte. C'est-à-dire quand on a posé le 2, on peut poser le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on a posé le 4, on peut poser après le 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on a posé le 10, on ne peut plus rien poser. Donc ça, c'est la contrainte. Ce qui fait, comme pour les pièces, qu'on a besoin d'un petit peu. Alors, soit on a du feeling et on se dit, c'est bon, je vais cartonner en rouge, je pose une pièce, deux pièces, trois pièces, et puis après j'y go. Ou alors, on attend un petit peu, on thésaurise, on se dit, est-ce que je vais avoir 3, 4, 5, 6 cartes identiques dans la même couleur? Et là, je pourrais partir sur la ligne. C'est un des choix à faire. Il faut savoir que quand on met 8 cartes de la même couleur dans les lignes, ça rapporte 20 points en plus. Donc, c'est bien quand même de se dire, je vais faire du jaune, je vais faire du bleu, je vais faire du vert, et j'y arrive parce que, voilà. Sachant qu'il y a 43 cartes à piocher quand on commence la partie, et que donc on a une main de départ, et que une fois qu'on a posé sa carte, ou qu'on a défaussé une carte, parce que l'action, on peut soit ouvrir une ligne, compléter une ligne, soit dire, j'ai rien à faire, donc je vais prendre une carte et je vais la défausser. Une fois qu'on a fait ça, ben après on pioche. La pioche s'épuise. Et puis quand la pioche est complètement épuisée, c'est la fin de la partie.
On peut piocher dans les piles de défausse. Mais la carte
On
du dessus
peut
seulement.
aussi, comme le dit Jérémy, récupérer la carte qu'on a défaussée, mais ça n'arrive pas, ou que son adversaire a défaussée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est bien vu, c'est qu'on est obligé, enfin, on est obligé de faire attention à ce qu'on a jeté, parce que on ne doit pas jeter des choses qui vont arranger l'autre. Comme il n'y a toujours qu'un seul chiffre dans chaque couleur. On sait que quand l'adversaire en est à 8, par exemple, on peut jeter un 7 parce qu'il ne le posera jamais. Par contre, on ne va pas jeter un 9 parce que ça va l'aider à compléter sa
Ah,
ligne
surtout,
et ça va lui
surtout
donner
des
9
grosses cartes
points.
comme ça,
Donc
ouais.
voilà, faut pas, c'est mal. Voilà, donc c'est simple, c'est pas compliqué à comprendre. Le tutoriel est bien fait, il y a même des petits smileys qui nous disent bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, j'ai trouvé super bien. Et puis à la fin de la partie, on a un tableau récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la partie. C'est-à-dire qu'on va voir quand nous on a perdu des points, quand l'adversaire ou l'IA a gagné des points, avec justement ces petits smileys qu'on peut envoyer, qu'on peut recevoir. Et quand c'est une IA, elle dit bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah, fondamentalement, c'est déjà un bon jeu de Knizia,
Bah,
un
c'est
bon
ça.
jeu à deux
C'est
qui
ça.
a. Certains joueurs peuvent trouver qu'il y a un peu de hasard, mais globalement, nous, en fait, au fil des parties, on s'aperçoit que non.
Si, il
y
y
a
a c'est une
l'anticipation.
prise de risque.
Moi, c'est une prise de risque,
C'est une
voilà.
prise de risque.
Avec les éléments qu'on a. Les joueurs ont les mêmes données, à la différence de leur pioche, enfin, de leur main, hein, de départ. Et après, le portage, pour moi, il est parfait aussi. Hein.
Ouais, il n'y a pas grand-chose à jeter. Toute la partie graphique. Alors, c'est bizarre parce que le son est un peu en décalage par rapport au graphique. C'est très bien pour le coup. La partie coloration, l'ambiance sonore est vraiment bien choisie.
J'ai vu que Marcel André Casola-Merkel a participé à la partie à la réalisation du jeu. C'est quelqu'un qui est auteur de jeu, on l'a vu tout à l'heure avec Santa Cruz, mais qui est effectivement aussi à la base illustrateur.
Mais il est pas là. On est en train de parler du son là.
Pardon.
D'accord.
J'ai pris tu.
Et donc. Et donc, en termes d'ambiance sonore, c'est très bien, mais sauf que je trouvais un petit peu en décalage. C'est plutôt l'Égypte, les pyramides. Et là, alors Lost City, c'était censé être dans une jungle et trouver des temples. Et en fin de compte, ça, c'est un truc qui marche pas. C'est le thème qui est collé, qui est plaqué et qui marche pas. Bref, l'ambiance sonore, elle est bien faite avec des vrais morceaux. C'est-à-dire que c'est pas juste des petits sons par-ci par-là. T'as des vrais morceaux et puis t'as une boucle en fait où t'as 3, 4, 5 morceaux. Je sais plus, peut-être pas 5, mais 3, 4 morceaux. Et normalement tu restes pas des heures sur ton téléphone ou ton iPad à jouer, donc normalement ça passe. Il y a le récapitulatif du match, récapitulatif de la manche, qui est très bien fait, où tu peux voir ce que t'as merdé, ce que t'as pas merdé.
Comme il disait dans Carcassonne là où tu vois.
Et puis ce qui est rigolo, c'est justement, je parlais des pourcentages de victoire des IA et ton pourcentage de victoire, bah t'as des tendances aussi. Et ils baissent, ils montent, tu baisses, tu montes, c'est bien. Le principe est hyper simple, c'est léger, c'est un peu hasardeux, mais ça marche très bien. Et en fait, c'est parfait parce qu'en fait, c'est un jeu qui joue en 10 minutes maxi.
C'est le format.
Qui est super intelligent. Donc, si vous avez 5-10 minutes à tuer dans le RER, en attendant chez le dentiste ou n'importe quoi, bah, vous y allez et puis c'est parfait. Donc, Lost Cities, 2,99€. Moi, je dis.
Sur iPhone. C'est peut-être son seul défaut.
Très bien. Oui, que ce soit pas universel, mais je pense que c'est vraiment.
C'est fait
ça correspond à la plateforme. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc que tu sors quand t'as 5 minutes, que t'attends le bus, quoi. Et puis, qui est juste bien fait et qui est pas con. Donc, voilà. Pour moi, c'est très bien. Et puis, c'est un peu un must-have et ça remplace les puzzle bubble ou les choses comme ça tout à fait avantageusement. J'ai dit une connerie sur puzzle bubble?
Non.
T'aimes bien, tu es un fan de Puzzle Bubble. Alors.
Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais j'avoue, il va passer du temps.
Bref, voilà, donc Lost Cities, un jeu Reinhard Knizek, 99, remis au goût jeu en 2012, 2,99€ sur iPhone à partir de l'iOS 5.
Et voilà.
Ce qui conclut notre partie.
Notre phase B.
Jeu. La phase B. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous, alors, s'il vous plaît, un petit peu d'indulgence. C'est la reprise.
C'est dur, la rentrée.
Et c'est compliqué.
Non, je trouve que c'est mieux là, que la semaine dernière.
Que la semaine dernière ?
Ouais,
ouais, ouais, enfin, bah,
il y a une heure pour
moins compliqué la semaine dernière. Ouais. Oui, et puis, effectivement, on est déjà mieux, on est déjà plus dans le rythme que la phase A. Surtout, dites-nous si vous avez aimé la construction, notre nouvelle construction, notre partage entre les news et la partie jeu. On a mixé les jeux de société et les écrans, donc bon, ça c'est un parti pris. On a mis un petit peu de côté les événements, parce que les événements, vous avez l'application iPhone et Android, donc il faut y aller parce qu'elle est toujours vivante et elle est enrichie. Maintenant, il y a des choses qui se passent au Luxembourg, enfin il y a des POI au Luxembourg, des POI au Canada. Donc, allez-y, jetez un œil et puis voilà. Et toujours, dites-nous les jeux que vous avez aimés. Mettez un petit commentaire sur le site. Mettez un petit commentaire sur iTunes. Et puis,
mettez-nous des notes, voilà. Ouais.
On se retrouve dans une semaine, puisque maintenant le rythme est passé à de l'hebdomadaire, vrai hebdomadaire. Donc, à dans une semaine pour un podcast face à News. Et d'ici là, jouez bien.